Dit is Tam.
Aujourd'hui, on parle des styles d'attachement selon le livre d'Amir Levy et Rachel Heller intitulé Attached, mais qui ont été théorisés avant, dans les années 50, par Beau Levy. Mais c'est quoi ton style d'attachement?
Alors, d'après e-santé, la clinique, je suis à 80% sécure, 10% anxieux fusionnel et 10% ambivalent désorganisé.
0% en bande désorganisée.
0% évitante?
0% évitante.
Ok,
ouais. T'es pas du tout évitante?
Apparemment, check! Mais toi, dis-moi!
Je sais que j'étais sécure à tendance évitante.
Et toi, Lily?
Et moi, de mon côté, ben, clairement, j'ai pas fait le bon test, apparemment. mais mon test m'a dit que j'avais un style d'attachement sécurisé. Mais c'est un test un petit peu plus, une vue un petit peu plus simple. Moi, en lisant les styles d'attachement, je me suis reconnue, ou je me reconnais parfois dans le style anxieux. Donc, je vais m'auto-diagnostiquer comme sécurisée à tendance anxieuse. Et Fizou, quel est ton style d'attachement?
Moi, je suis 60% évitante, 50% sécure, et 20% des deux autres. Mm-hmm. Non, 20% désorganisée et 20% anxieuse.
En bande désorganisée.
En bande désorganisée. C'est ça, donc je vais aussi m'auto-diagnostiquer tout à l'heure.
Parfait.
Edwin, c'est toi qui l'as pris, je pense, la seule qui a lu le livre en entier.
En fait, je l'ai même pas lu, je l'ai écouté dans audiobook. Mais moi, j'ai entendu la première fois parler du livre, je pense, il y a 5 ans. Et ensuite, j'en ai entendu parler par une de mes amies, Laurie, plus tard, que sa psy lui avait conseillé de lire le livre pour qu'elle comprenne un peu les dynamiques dans son couple. Mais bref, le livre, en fait... C'est qui l'autre? Adam Levine.
C'est fou qu'il ait pu à la fois écrire un livre et cofonder Maroon 5. C'est fou.
Quel homme, c'est quel homme. Donc, Amir Levine, c'est un psychiatre et neuroscientifique. Il a travaillé à Columbia, puis, comment il a écrit le livre, en fait, c'est qu'il faisait, je pense, sa résidence, dans une pouponnière avec des mères qui avaient un PTSD. Donc, ça l'a vraiment intéressé de voir comment la théorie de l'attachement pouvait affecter notre vie quotidienne, donc de tous les jours, dans d'autres sphères de notre vie, donc les relations amies, relations amoureuses. Puis, dans une des entrevues qu'il a faites, il disait que il se rendait compte qu'il n'y avait pas vraiment de littérature vulgarisée par rapport à ça, et comment on pouvait peut-être, je veux pas dire démocratiser, mais juste rendre la chose un peu plus publique pour aider les gens à mieux se comprendre, puis à s'adapter peut-être dans leur façon de réagir dans leur couple ou dans le monde du dating, par exemple. Puis, donc, dans son histoire, il raconte qu'il avait appelé son amie de longue date, Rachel Heller, qui elle aussi est psychologue. J'ai pas trouvé trop de trucs sur elle, mais lui, c'est quand même un vrai nerd. Un vrai chercheur. Donc, quand ils ont publié le livre, de critiques. Et donc, c'est pas un homme que tu vas voir dans les TED Talks, dans plusieurs podcasts, comme certains scientifiques qui ont fait beaucoup trop en faire d'entrevues.
Mais pourtant, il fait de la vulgarisation.
Ouais, c'était...
C'est destiné au grand public.
Ouais, exactement. Donc, c'est ça. Puis, à partir de là, donc, le livre a été publié en 2010. Ça a été vendu par centaines de milliers. Puis, traduit en 11 langues, de ce que j'ai dit. Si vous voyez ma copie.
Ce sera pas étonnant. Donc à tous nos auditeurs internationaux, vous pouvez trouver
la librairie la plus proche.
Vous n'avez pas d'excuse.
Donc j'ai compris peut-être un petit peu plus sur la théorie de l'attachement, que, comme Fizou l'a si bien dit, John Bowlby, un anglais. Il reconnaît, lui et Mary Answorth sont reconnus comme les personnes fondatrices de la théorie de l'attachement. Donc lui, c'est un psychiatre, un psychanalyste. Puis ensuite, en fait, quand il faisait, je sais pas qu'est-ce qu'il faisait, justement, de la recherche, à ce moment-là, les besoins de base, nourrir, se loger, des trucs comme ça, lui, il a pris l'attachement quand il a observé une relation peut-être plus problématique entre la mère et le bébé, dans un orphelinat, pardon. Puis, il a réalisé que, ben, l'attachement, c'est aussi important que manger, être habillé, être logé. Donc, il est vraiment venu mettre sur un pied d'égalité cette relation-là, cette émotion-là. Puis Mary Ellsworth, elle, c'est américano-canadienne, psychologue dans la psychologie du développement. Donc lui a publié son livre Attachment and Loss en 69, ça a été republié plus tard, dans 1980. Puis elle, ce qu'elle a fait, elle a fait une expérimentation dans les années 60-70. Puis en fait, c'était dans une... Ce que j'ai compris, c'est que c'était dans une salle. T'avais le primary caregiver, donc la mère, le père, la personne qui prend soin du bébé. Il y avait quelqu'un du lab, là, de la recherche, qui était dans la salle, et le bébé. Et ensuite, on demandait aux parents de s'en aller. Donc, l'enfant explorait avec les jouets, les trucs à sa disponibilité. Le parent, le caregiver, il sortait. Puis là, l'enfant avait une réaction. Donc, après un certain moment, le parent il revenait. Puis c'est elle, la première, qui a identifié les trois types. Donc, sécure, anxieux et évitant. Avec la réaction de l'enfant. Fait que l'enfant qui était anxieux, elle avait, le parent, le caregiver avait plus de difficultés à calmer l'enfant. Et ben l'enfant il s'en foutait du jouet. Ça lui prenait beaucoup plus de temps pour se réintéresser au jouet. Il avait besoin de plus de soins pour être calmé. L'anxieux, le sécure, le parent réussissait à calmer l'enfant de façon assez rapide. Puis l'enfant, naturellement, ben il retrouvait son intérêt vers le petit jouet. Puis l'anxieux, ben lui, il s'en foutait du bord. Ben, le parent revenait, puis l'enfant, ben, il était comme un peu comme désengagé, il était comme pas si intéressé par le bord.
Ça, c'est l'évitant, l'anxieux?
L'évitant. Non, l'anxieux, il pleurait. Il pouvait pas être calmé facilement. Fait que l'évitant, lui, au contraire, il pleure, il se calme, mais il se réintéresse pas nécessairement au jouet. Puis je pense qu'il disait qu'on peut voir la vidéo sur YouTube. J'ai pas allé la chercher, mais... C'est comme ça que ça a commencé, donc la théorie de l'attachement, puis ensuite il y a beaucoup d'autres chercheurs qui ont continué à investiguer là-dessus, à faire des expérimentations, puis à approfondir toute la théorie avec d'autres types d'attachement. Mais ce que ça démontrait, c'est que c'était le concept de sécurité. Donc l'enfant, ben, c'est le caregiver qui va donner le premier son, si on veut, à comment l'enfant va apprendre à se réguler lui-même. Donc, dans ce cas-là, les enfants qui avaient une relation sécure avec leurs parents, ben, c'est ok, ben, ils sont revenus, c'est correct, si je le vois. Mais les autres, ça demandait d'autres mécanismes en place pour être capable de les calmer. Donc, le côté sécuritaire, c'est ce qui est vraiment, je pense, au centre de la théorie. Puis, à partir de là, ben, on peut avoir différents styles d'attachement avec nos familles, nos proches, nos amis, nos partenaires, nos conjoints et conjointes. Puis pour finir, ce qu'ils veulent.
Non, j'allais te demander, est-ce que dans le livre, il parle du fait que tu vas pas avoir le même genre de style d'attachement selon la relation dont on parle?
Ben, dans une des entrevues, l'auteur, ben, il disait, il y a pas une grande corrélation nécessairement entre comment tes parents t'ont élevé ou pas. Parce que c'est quelque chose qui est dynamique. C'est comme faut le voir comme un spectre. Ouais. Donc c'est pas une pathologie, c'est pas, tu t'identifies à un type ou l'autre, puis c'est fini. Tu pourras jamais changer.
Ça fluctue.
Ouais. Donc, tu peux avoir un certain style avec tes parents, mais avoir totalement un autre style avec ton conjoint ou conjointe. Je pense que dans son entrevue, s'il avait à réécrire le livre, il mettrait l'emphase sur d'autres choses que, sur comment ça a été écrit à ce moment-là. Puis je trouvais ça, c'était une bonne réflexion par rapport à, ça a été écrit il y a presque 13 ans. Aujourd'hui, ben, avec le temps, tu peux le dire autrement. Ah ouais, pour finir, j'allais juste dire les trois principes, toujours de la théorie moderne de l'attachement, reposent sur le fait que l'attachement est un besoin humain intrinsèque. Donc ça, c'est de l'apport de John Dewey. La régulation des émotions et de leur peur pour renforcer la vitalité. Je sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire, mais...
donc finalement, il y a quatre styles. Un sécure, puis trois insécures. Et nous, ce qu'on va discuter, c'est les trois insécures qui sont anxieux, évitants et bande désorganisée.
Ouais.
Exact. Est-ce qu'on commence par
L'anxiété? Ouais, donc moi, j'ai lu un petit peu plus sur le style d'attachement anxieux. Parce que aussi, enfin, la raison pour laquelle j'ai choisi ce style-là, c'est celui dans lequel je me suis revue à certains moments de ma vie, parce que comme t'as dit, genre ça fluctue, c'est aussi c'est dynamique, et c'est vrai aussi que ça va dépendre des différentes relations dans lesquelles tu es. Moi, j'ai du mal à penser au style d'attachement comme étant quelque chose de entièrement personnel. C'est plus quelque chose qui est, c'est plus le style d'attachement d'une relation ou le style d'attachement d'une personne, parce que on peut pas ignorer l'impact que le style d'attachement de l'autre personne en face de toi a sur le tien dans la relation.
Genre, une interaction.
Ouais, c'est plus une interaction. Ça, c'est, ça va dans deux sens. Mais donc, le style d'attachement anxieux, comme tu l'as dit un petit peu, Evelyne, c'est, ça décrit une forte propension à se sentir insécurisée dans la relation. J'ai lu parfois que, souvent, considérer les autres comme étant sur un piédestal, et avoir une façon de se voir soi-même un peu plus négative, et par conséquent avoir peur de l'abandon. Donc en fait, en mettant les autres sur un piédestal, en surestimant les autres et en se sous-estimant, les personnes qui vivent un style d'attachement plus anxieux ont tendance à rationaliser un potentiel rejet ou un abandon, et du coup dès qu'elles détectent une forme d'éloignement, en fait, dès qu'elle détecte un manque de disponibilité de la part de leurs proches, elles ont tendance à justifier ça par un abandon. Et donc ça décrit un style d'attachement où on est tout le temps dans une peur de ne pas avoir ses besoins affectifs remplis par nos proches. Ça paraît aussi du fait que les personnes qui ont un style d'attachement anxieux, elles ont tendance à avoir des comportements dits hyperactivants, qui veulent dire genre qu'ils vont se montrer très, ils vont essayer d'attirer beaucoup d'attention dans la relation. Ils vont essayer de, en fait, ils vont demander beaucoup d'attention. Donc voilà, c'est ce qui est appelé hyperactivant. Et ça va être aussi souvent des gens qui sont un petit peu, qui ont tendance à ressentir de la jalousie parce qu'elles se sentent insécurisées, menacées par d'autres relations de leurs proches. Donc peut-être une propension plus forte à la jalousie. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Est-ce que vous reconnaissez des gens dans votre entourage?
Je reconnais des gens, je ne veux pas les nommer. Non, les salue. Mais on les embrasse. Mais ce qui est marrant avec le anxieux, pendant que je préparais le débutant, c'est que c'est des gens qui s'attirent. Parce que
les codépendants,
ils sont codépendants, c'est ça, ils appuient chacun sur les blessures de l'autre. Un recherche beaucoup d'attention, l'autre essaie de fuir, donc c'est marrant. Un petit peu,
tu veux dire évitant versus anxieux?
Ouais.
Ah ouais.
Oui, parce qu'en plus je pense que t'as un certain type de reconnaissance quand tu as de l'affection de quelqu'un qui est évitant.
Peut-être
tu peux choisir
comme on est avec nos chats.
Exactement. Moi je suis anxieuse avec les chats. J'entretiens une relation volontairement toxique avec les chats. Alors que je pense pas forcément chercher ça dans mes relations avec les humains. Mais je l'accepte.
Moi aussi, je cherche activement l'attention des chats.
Tout à fait. qui eux sont détachés.
Ils sont fulminants.
Sont très détachés.
On a encore plus envie d'avoir leur attention.
Exact.
Mais est-ce qu'il y a des... Je pense qu'il y a aussi des... Il y a des aspects qui se retrouvent dans l'évitant comme dans l'anxieux. En tout cas, dans ce que je lisais sur le comportement anxieux. Ça parlait d'une difficulté, du coup, à faire confiance à l'autre, parce qu'en fait, tu es toujours insécurisé. Et je pense que l'évitant, il y a aussi cette notion-là. Mais en fait, il n'y a que dans le style sécurisé qu'il y a une vraie confiance dans la relation, j'imagine.
Je pense que la différence... Effectivement, il y a une notion de confiance dans les trois autres styles, mais la différence, c'est vraiment comment tu deals avec le manque de confiance. C'est-à-dire que l'évitant, tu vas chercher à activement confirmer.
Ouais.
Tu
veux dire anxieux.
Pardon, oui, anxieux, tu vas accidentellement chercher à confirmer comme quoi ce lien existe bien, alors que évitant, tu vas juste fuir un petit peu.
Ben, je pense que l'évitant, il va saboter, puis il va se réconforter dans le résultat. Exact. De la prophétie.
Tu n'es pas... Oui, c'est un fulfilling prophecy, ça. Ouais. Il va jamais se mettre vraiment en danger.
Ça va justifier son thinking.
Ouais. Exact, mais c'est un peu vrai pour les deux. Parce que l'anxieux, plus il va manifester aussi cette volonté d'avoir de l'attention et tout, plus il va aussi faire que le style évitant va s'activer chez quelqu'un d'autre. Finalement, les deux finissent par self-saboter leur stratégie.
Probablement.
Est-ce que vous voulez que je vous parle un peu plus de l'évitant? Je disais à Evelyne que c'est lui qui ferme juste les portes de l'ascenseur quand quelqu'un arrive. Mais la définition que j'ai trouvée, je vais la lire. Il renvoie à un mode de fonctionnement individuel, favorisant une forme de dépendance affective, Concrètement, les personnes ayant un style d'attachement évitant ont tendance à fuir l'investissement, voire la relation en soi, par peur de souffrir. Et j'avais écouté un podcast où est-ce qu'une psychologue parlait un petit peu des styles d'attachement, et elle disait qu'en réalité, ces styles-là, c'est une stratégie qu'on adopte en fonction des facteurs de stress auxquels on fait face dans son histoire de vie. Ça peut être, ça peut remonter à l'enfance, ou ça peut être, c'est des événements plus récents qui font qu'on adopte sa stratégie, et on développe comme un sorte de coping mécanisme pour naviguer dans ces choses.
Je pense que j'ai écouté le même podcast que toi.
Mais j'ai bien aimé son approche à elle, parce que c'était quand même un peu moins négatif comme discours.
Ouais,
c'était culpabilisant, en fait. Ouais. C'est ça. Et j'ai bien aimé la comparaison avec une stratégie. Et aussi, elle parlait d'un logiciel. Est-ce que c'est ça? Elle parlait comme d'un logiciel d'attachement qu'on installe et qui s'active selon les situations. Puis pour l'évitant, c'est quand il y a trop de proximité avec quelqu'un que ça risque de s'activer. Et la notion de logiciel, c'est que l'individu fait comme il a appris. D'où parfois le retour jusqu'à l'enfance. Et en thérapie, il cherche justement à savoir qu'est-ce qu'on a appris et comment. Puis elle expliquait aussi qu'on n'est pas comme ça 100% du temps, puis que ça va varier en degré, selon les situations et selon les personnes. Et on a, comme tous, un seuil de tolérance vis-à-vis des choses. Et quand on dépasse ce seuil de tolérance, on va allumer le petit logiciel qui va faire que son mécanisme de défense. Il y a plusieurs degrés d'évitement. Ce serait peut-être trop complexe de rentrer dans les détails de qu'est-ce qui existe dans ce style d'attachement. Je suis pas vraiment une experte, mais je me suis quand même reconnue là-dedans. Et je peux parler de moi, comme j'ai l'impression que l'intensité va dépendre non seulement des personnes, mais aussi de leur propre style d'attachement. Comme je disais tout à l'heure, plus quelqu'un va être anxieux et chercher trop de proximité, plus moi ça va, j'ai tendance à quand même vouloir me détacher parce que c'est trop.
Non, ouais, c'est malaise.
Mais avec les animaux, non? Anxieuse avec les chats parce que j'ai besoin de leur attention. Ouais.
Mais moi j'avais pas lu logiciel, où j'avais vu que c'est ton degré aussi de comme une alarme de feu pour une sensibilité, donc il y en a qui vont être beaucoup plus sensibles à, par exemple, parce que moi je paraphrase, mais un anxieux par exemple, il va être très 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 sensible, son alarme de feu va être très sensible à la fumée, donc si t'en fais que les yeux, là bam, ça va partir. Le sécure, il va être comme ah ok, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe, oui, non, ok, je vais l'éteindre. Puis l'évitant, il va juste faire, je m'entends pas. J'évite d'écouter la larme de feu.
J'ai aussi vu l'avis d'une sexologue, qui a un blog.
Très bien.
Sexologue. Et elle parlait de style d'attachement, particulièrement dans les dating.
Ok.
Et pour l'évitant, elle disait que tu cherches à garder ton partenaire à distance parce que tu as besoin de... En fait, tu perçois la proximité comme quelque chose de négatif et comme une entrave à ta liberté. Et que tu as probablement des besoins de proximité et d'intimité, mais que tu les évites ou tu les caches pour éviter d'être blessé. Et pour ça, tu peux utiliser différentes stratégies, comme dire que t'es pas prêt pour l'engagement, que tu portes davantage d'attention aux défauts plutôt qu'aux qualités des personnes, genre tu penses à ton ex qui était partout, ou genre tu vas voir d'autres personnes, ou tu flirtes avec d'autres personnes, même quand la relation va bien. Et tu n'es pas super attentive ou attentif à ce que ton partenaire te dit, tu gardes des choses floues pour garder ton impression d'autosuffisance. C'est ça, donc elle disait, genre, en gros, le diagnostic, ce serait si tu penses que qu'il est préférable d'être autosuffisant, que tu évites de te dévoiler aux autres, que tu te sens pas très bien dans l'intimité et que tu ne recherches pas d'aide dans les relations, c'est que probablement tu as ce style d'attachement-là.
Je pense que aussi on s'inspire beaucoup de la relation de parents. Je pense que c'est comme la relation qu'on voit le plus dans notre vie et que finalement on va avoir tendance à imiter probablement certains comportements qu'on voit. Donc c'est sûr que ça fait du sens de, tu sais, de s'interroger sur c'est quoi un petit peu les
modèles qui nous a été exposés.
Exactement.
Ouais. Parce que même plus large que ça, comme quand j'avais fait le test et que ça me disait que j'étais majoritairement avoidante, ça me disait, oh, peut-être que vous avez grandi dans un foyer où est-ce que les émotions n'avaient pas leur place. Peut-être que, genre, tu sais, des fois aussi, c'est des personnes qui ont été élevées par un seul parent, des choses comme ça. Ça peut être des facteurs qui déterminent, qui te programment pour être plus un style qu'un autre. Et la même psychologue dont je parlais tout à l'heure a parlé de l'adage, il faut un village pour élever un enfant.
Ouais.
Et qu'en fait, si t'as plusieurs personnes sur qui compter, ça fait en sorte que t'es plus sécure. Mais dans nos sociétés modernes, c'est souvent un couple seul ou un parent seul qui va élever un enfant, donc d'emblée, c'est comme un peu plus probable que tu sois vers un style plus insécure.
C'est vrai, ça.
Donc ça va être pire pour les enfants du futur que pour nous.
C'est ça. Ils n'auront même plus de planète et ils sont pas...
ils ont bonne chance à vivre. Mais en même temps, je trouve pas ça genre super rassurant de dire qu'on est préprogrammé.
Ouais.
Quand on s'intéresse au trauma précoce, c'est un peu comme si c'était une fatalité. Mais en même temps, elle disait que la plasticité cérébrale, la façon que le cerveau est fait, c'est vraiment pour traiter les traumas. Tu peux changer de style d'attachement, tu peux faire évoluer ton style d'attachement. Il y en a qui pensent que si tu es dans une relation sécure pendant 3 ans et plus, ça peut régler ton problème entre guillemets.
Un diagnostic, là. L'ordonnance.
Tu disais pas que dans le livre aussi, il y a une histoire de fenêtre de 4 ans.
Oui, mais dans le livre, que j'ai pas lu, ça disait que tu nais avec un style d'attachement.
Oh, t'as pas déjà
un style d'attachement à la naissance. C'est pour ça qu'il y en a qui parlent déjà de la grossesse. Comment tu te la représentes, comment tu vis ta grossesse, tout ça qui peut déterminer chez l'enfant un style d'attachement. Ouais.
J'ai l'impression que c'est beaucoup un truc pour un petit peu... Des fois, c'est utilisé un petit peu pour shame les mamans, tu vois, genre, oh my god, t'étais tellement, genre, stressée pendant les
temps. Pendant la grossesse.
Oui, pendant la grossesse, maintenant, regarde ton enfant, il est traumatisé.
Ouais, faut laisser les mamans
tranquilles. Laisser les mamans tranquilles, des fois. Ouais, c'est ça, j'ai l'impression que des fois, il y a comme...
C'est pour ça que quand on lisait un peu, comme, dans les années 60, quand, un médecin, John Bowlby, était dans un orphelinat, tu sais, comme, mais pourquoi? Elle venait d'où, puis dans cet âge, ils ont été pas si... c'est progressiste. Tu sais, c'est la faute à qui? C'est la faute à la mère.
Ouais,
c'est comme c'est toujours la faute à la mère.
C'est toujours la faute à la mère.
L'autre chose, bon, il dit quand même que les styles d'attachement ne sont pas bons ni mauvais, ils sont simplement différents.
Ouais.
Mais il dit aussi qu'il y a 25% de chances que votre style d'attachement change tous les 4 ans.
Ah, mais ça donne espoir.
Mais c'est super drôle. C'est comme...
Non, c'est super...
très précis. C'est plus précis que la météo à Montréal.
C'est 25% de chance. C'est comme l'histoire des allergies sur la nouvelle chaque 7 ans.
Et si tu manques ton créneau, t'es encore poignée avec le même style d'attachement pour 4 ans.
C'est un même déchet. Ben.
C'est super. Ça peut pas être cancel de... Pardon.
C'est un abonnement et que le paiement, il passe. Ça a été pris.
Est-ce que vous voulez qu'on parle de la bande désorganisée?
Oh yeah. Attends, je me suis rappelée d'une anecdote. Je sais plus où est-ce qu'on l'avait lu, si c'était toi, c'était moi, mais que les personnes avec un style d'attachement évitant, quand ils étaient enfants, ils étaient sûrement plus agressifs. Puis là, là, j'ai écrit parce que j'étais comme, ah ouais, moi, personne pourrait expliquer pourquoi je donnais des claques. Je serrais les cheveux,
Ça, c'est évitant.
Ben, oui,
moi, j'étais agressif dans leur, En fait, est-ce que, en fait, c'est l'expression de, du style d'attachement évitant dans l'enfance, c'est de la violence.
Ben, pas de la... Ça faisait juste un peu plus agressif. Ça faisait pas violent. Puis, je me suis tout de suite identifiée à ça.
Focus avec Simone qui est
agressif. Puis, je comprends parce que t'es dans ma bulle. Tu sais, si, là, je sais pas, ma tante, elle me tenait dans les bras, puis moi, j'étais comme, non, genre, t'es trop proche de moi. Ben là, j'arrête. Non,
c'est une claque.
Ouais. Ouais.
Le désorganisé.
Oui.
Apparemment.
Oui.
C'est là où il y a le plus de pathologies. Parce que comme c'est des hot and cold, comme c'est des extrêmes, c'est là qu'on trouve des trucs anxieux, des addictions.
Ah, ouais, ouais, ça a l'air plus difficile.
C'est triste. Ouais.
Donc, c'est effectivement considéré comme le style d'attachement le plus complexe et le moins sécurisé. Il se caractérise par des comportements contradictoires et désorganisés envers les figures d'attachement. Donc, pour résumer un petit peu ce que j'en ai compris, je vais vous lire les paroles de Rotten Crow de Katy Perry. Parce que je trouve que ça exprime vraiment bien, ça dit « Cause you're hot, then you're cold, you yes, then you know, you're in, then you're out, you're up, then you're down. » Donc ça a l'air d'être quand même bien résumé.
Mieux théorisé que Bowlby.
Merci, merci beaucoup. Ma Katy Perry, des fois, ça fait la job. Plus qu'un PhD. Donc ils ont généralement vécu des expériences traumatisantes telles que les abus physiques, émotionnels ou sexuels ou ont été témoins de comportements effrayants ou chaotiques chez leur figure d'attachement. C'est comme ce qu'on disait tout à l'heure sur l'enfance. Donc quelques caractéristiques qu'on voit chez les gens qui ont un style d'attachement désorganisé. Donc des comportements contradictoires, hot and cold, in and out, up and down. Aussi entre l'approche et l'évitement, exprimant des besoins d'affection et de proximité, tout en évitant simultanément la proximité émotionnelle par peur d'être blessé. La deuxième partie, on reconnaît un petit peu l'évitement. C'est juste que là, tu balances entre les deux. Réaction de peur et de confusion. Les individus avec un attachement désorganisé peuvent réagir avec de la peur, de la confusion et de l'ambivalence face à leur figure d'attachement. Donc ça peut être triggered par des situations qui rappellent des expériences traumatisantes du passé, ce qui peut provoquer des comportements émotionnels, dysfonctionnels et imprévisibles. Donc il y a de la méfiance aussi envers les autres, envers soi-même. On a du mal à faire confiance aux autres et à nous-mêmes, du mal à sentir en confiance interne, en cherchant la proximité émotionnelle et aussi de la distance. Donc il y a toujours cet aspect un petit peu de recherche de proximité en même temps de beaucoup de distance. Difficulté à réguler les émotions, recherche de réconfort malgré la peur, et aussi effectivement difficulté dans la relation intime comme on peut s'y attendre. C'est désorganisé. Je pense que le nom est bien choisi.
C'est les gens qui sur Bumble parce qu'ils savent pas ce qu'ils cherchent.
Tout à fait. On diagnostique. Il devrait avoir sur Bumble un petit
style d'attachement.
Pour ça,
ça va se mettre sécurement, je pensais pas. Je pensais que les gens vont avouer qu'ils sont avoués d'elles.
Ils sont même pas capables d'avouer s'ils veulent lancer une relation ou pas avant de là.
C'est classique désorganisé.
C'est ça, ils sont même pas capables d'avouer leur vrai taille.
C'est vrai.
À votre avis, c'est quel style d'attachement qui est plus capable de tenir avec un attachement désorganisé? Parce que je me dis, genre, si t'es avoidant, par exemple, ça va pas fitter parce que, deux ne peuvent pas être avoidant, deux ne peuvent pas être détachés, parce que, je pense que ça va pas catcher.
Quelqu'un c'est sécure.
Ouais. Ouais, c'est pas s'adapter à, au rat ou au con. Parce que les deux autres, ça va trop et,
Exact.
Ou peut-être un autre désorganisé.
Je pense que je me demande genre si quelqu'un qui est convaincu si tu veux passe beaucoup de temps, enfin genre a une relation
avec. Ah, j'imagine ça peut être influencé aussi.
Forcément genre si toi de base tu es comme complètement à l'aise avec tes relations et que t'es dans cette relation où comme on te donne on t'enlève, genre tu deviens super anxieux parce que tu sais jamais sur quel pied danser. Peu importe à quel point tu es secure, tu sais jamais, genre, comment l'autre personne se réveille à ce moment-là, ça finit par développer toi-même des problèmes.
Ou alors, je sais pas pour le désorganiser, mais par exemple, j'imagine si quelqu'un de sécurisé et sécurisant est avec un avoidant ou un anxieux, il va peut-être leur apporter plus de sérénité et ils seront capables de s'adapter à cette sécurité-là et d'être plus... de se sentir plus stable.
Genre les contraires à l'anxiété.
Non, c'est pas vraiment des contraires. L'anxiété et l'évitance seraient des contraires.
Ouais.
Mais un secure et un autre, peut-être que le secure va finalement apaiser l'autre personne. L'autre personne sera capable de faire quelque chose de plus serein.
Mais j'ai l'impression que ça peut être un petit peu aussi, dans le sens où quand même, imagine cette relation-là, il se sépare comme l'autre, il va complètement briller.
Ah, ouais.
Genre, je me dis, c'est comme...
Ça dépend si tu vois le verre à moitié plein ou à moitié vide. Ouais, ouais.
Mais aussi, on n'est pas 100% un seul type d'attachement. Oui. Donc, genre, si t'as un peu de sécurité en toi.
En fait, ce que je me dis, c'est que, genre, c'est dangereux de relier entièrement sur l'autre personne pour régler comme tes problèmes d'attachement. C'est-à-dire que, genre, tu vas pas dire, oh my god. Ou toi-même, quand t'es la personne sécurisante, tu vas pas dire, ah ben, je vais le fixer et puis, genre, puis ça va aller mieux et puis, il va se sentir mieux parce que après, tu sais, t'es la seule béquille aussi qui soutient.
De toute façon, c'est pas cette relation-là qui a mis une personne qui vit avec un style d'attachement plus difficile dans cette situation et du plus place. Donc, pour trouver un peu plus d'apaisement et un peu plus d'équilibre, il faut aller chercher dans d'autres facteurs de sa vie. Les solutions vont pas se retrouver juste dans tes relations avec les autres. Parfois, c'est aussi ta relation avec toi-même que tu dois être capable de réévaluer pour démontrer un style d'attachement qui est un peu plus équilibré.
Mais aussi, les styles d'attachement, d'après ce que j'ai compris, ça s'active. C'est trigger par quelque chose d'extérieur ou par une relation ou quoi. Et donc, même si c'est une sorte de logiciel que tu peux pas désinstaller, comme mon sujet est sur 4 ans, pendant 4 ans, tu peux quand même diminuer son intensité. Et donc, si il n'y a aucune raison pour activer ton style d'attachement le plus extrême ou augmenter son intensité, tu peux naviguer un peu plus sereinement. En tout cas, je sais pas, j'essaie de trouver des façons pour que les organismes s'en sortent.
Doing the Lord's work.
Est-ce que je continue avec le secure?
Vas-y.
Je vais faire un peu comme un espèce de, en même temps de dire les caractéristiques du secure, je vais essayer aussi de partager un peu les critiques, puis ensuite on peut finir sur le plus positif. Avec votre petit test que vous avez fait. Donc, un peu d'espoir, il y avait, je pense que c'est dans une des entrevues qu'il avait faites, il disait que 56% des les gens sont sécures. Ont un style d'attachement sécure. 20% anxieux ambivalent, 23% évitant, puis 3-5% désorganisé. Donc, on peut trouver, c'est quoi l'expression? Chaussures
à son pied. Torchon à sa gueule.
La merde à sa mouche.
Charmant. Moi, j'avais vu que, des fois, culturellement, tu peux, développer plus un style que l'autre, et que donc, aussi, géographiquement, il y avait
une... Ah ouais. Ça m'étonne. Et qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que tu dirais sur le Maroc?
Des organisations totales.
Ouais, ouais, je dirais le Maroc.
Ouais. Les 3%, c'est le Maroc.
Surtout les garçons.
Ouais, parce que c'est un petit peu, beaucoup de messages ouais, contradictoires, qui sont passés dans le,
Canada.
Québec, c'est Québec.
Sécure.
Ouais, peut-être. Ou peut-être évitant aussi.
Sécure à tendance évite.
Ouais.
Ouais, moi, j'irais que si je devais donner un style d'attachement au Québec.
Sur le diagnostic au Québec.
Mais la première chose que les critiques disent, c'est justement de pas regarder ça comme un diagnostic. Parce que c'est pas une pathologie, donc
ouais,
faut être capable de le voir comme ok, ben c'est pas à l'autre de t'apprendre à t'autoréguler, c'est à toi donc d'aller chercher les outils pour être capable justement de désenclencher les triggers qui vont faire en sorte que ton style d'attachement, parce que c'est souffrant aussi. T'sais, moi je le voyais aussi quand écouter le livre, je le voyais comme ton mécanisme de défense qui s'active en fait, parce que si t'es anxieux, c'est parce que t'as peur d'être abandonné. Puis si t'es évitant, c'est parce que t'as peur d'être abandonné aussi. C'est là pour te protéger. Donc, faut que t'apprennes à pas craindre l'inconnu. Puis c'est ça que c'est pour nous, je pense, comme humains, justement, comme la météo. On veut savoir si ça va faire beau demain. On veut savoir si ça va plus voir. Donc, de s'aventurer dans des relations, t'es la personne qui est sécure, bah, elle va être très à l'aise de se montrer vulnérable, de parler ouvertement de ses émotions, de ses attentes, de ses besoins, sans avoir peur de représailles de la part d'une personne qui a un style évitant, anxieux ou désorganisé. Ça va être des personnes qui vont rester elles-mêmes, tu sais, vont stay true to yourself, tu sais. Donc, elles vont pas changer de personnalité juste pour plaire aux autres. Donc, je pense que si t'es pas là, tu vas y arriver un jour. Faut juste que tu t'outilles. Puis moi, je sais que j'avais un style d'attachement très évitant avant, donc c'était si moi j'étais fuie. Mais je pense aussi, à un moment donné, dans une relation, j'étais très anxieuse. Donc je pense que
c'est plus un état que...
C'est ça.
Une caractéristique propre à soi.
Ouais, puis dans les deux situations, j'étais pas bien.
Ouais. Et comme je disais, genre, je pense que t'es autant likely, genre, t'es plus likely de, en tant que personne sécure, de devenir comme... anxieuse ou autre chose avec quelqu'un qui te donne pas ce que tu veux, enfin avec quelqu'un qui a un style d'attachement genre pas sécure, plutôt que toi qui comment dire,
qui s'autorégule,
qui régule la personne avec toi, tu vois ce que je veux dire?
Ouais, ça va être des personnes qui vont justement offrir un environnement sécuritaire à l'autre, peu importe quoi la relation. Donc, si j'ai des amis qui sont dans des relations qui pour moi sont ce serait bien passé pour moi, parce qu'il y a trop, pour moi c'est de la codépendance, moi je serais pas capable. Si mon copain il est toujours en train de m'appeler, ou qu'est-ce que tu fais, on va si, on fait ça, je suis comme, hey, j'ai besoin d'aller voir Fizou, j'ai besoin d'aller marcher toute seule, j'ai besoin d'aller dormir avec le chat, j'ai besoin de pleurer parce qu'il il a fugué.
très rationnel.
Mais c'est des gens qui vont très bien communiquer, mais aussi être très bon à répondre aux besoins de l'autre. Donc, dans ça, ils sont pas parfaits non plus. Puis c'est ça que j'ai aimé, je me rappelle c'est quoi le facteur de force que je trouve sur moi. Mais la personne disait, les gens qui font un style d'attachement sécure peuvent elles-mêmes tomber dans leur propre piège. Dans le sens qu'elles vont même pas réaliser qu'il y a des warnings, des
red flags. Ouais, comme je parlais de l'alarme.
Ouais. Parce que elles sont trop sécures dans la relation, donc elles vont arriver au point d'être complaisantes, puis juste d'être confortables, puis même plus aller chercher à allumer la flamme, alors que...
Ça, c'est Chelsea dans Love is Blind, avec quoi, mais... Ça, c'est Chelsea! En fait, elle est trop sécure!
Tellement! Elle avait l'air d'une folle tellement elle était sécure! Oui.
C'est vrai!
Elle avait l'air de genre vraiment pas voir ce qui se passait.
Ah, c'est vrai, ouais.
C'est
ça la critique envers elle, c'est que...
Elle
avait l'air de se, justement, de blind herself, complètement.
C'est vrai, vraiment.
Ok, donc j'ai compris maintenant les dangers de over-sécuriser.
Ouais, parce que j'étais comme...
Tu nourris des fraises alors que le mec est en gamin.
Ouais, je sais. Genre... Regarde à côté, puis...
Au début, quand je regardais un peu les styles insécures, j'avais du mal avec le sujet parce que j'avais l'impression qu'on était des clichés ambulants.
Ouais.
Trop négatif parce qu'on parle justement d'insécurité et tout, et que genre, on dirait qu'il faut travailler sur soi pour être une meilleure personne, sinon ça va pas. Alors qu'en réalité, ben, c'est aussi ça, la façon qu'on a de réguler ses émotions, de genre, rééquilibrer les choses pour trouver la paix intérieure. Et donc, je trouvais ça plutôt positif finalement d'avoir des styles peut-être pas désormais. Peut-être que si, finalement, je sais pas, c'est sa façon de réguler aussi ses émotions, mais de prendre du temps, genre, de déterminer et de faire respecter ses boundaries. Si ça peut, c'est pas complètement négatif non plus, ni tout à fait positif, mais genre, c'est la façon de gérer ses propres...
Je pense pas que c'est négatif dans la mesure où, à la base, c'est là pour te protéger. Donc, là, après ça, tu sais, si ça complique tes relations interpersonnelles, ben là, c'est un problème parce que ça te fait du mal aussi. Comment t'as appris à, ou pas appris à réguler certaines émotions et sentiments. Donc, pour continuer dans la critique du sécure, ben, c'est quelqu'un qui peut aussi trop s'investir dans les besoins de l'autre et oublier mettre de côté ses propres besoins. Parce qu'il est toujours en train de se calmer l'autre, c'est trop évitant, c'est trop anxieux, c'est trop ci, trop ça. Donc, le sécure peut aussi un peu se perdre là-dedans. Mais je pense que le plus évident, c'est ça. C'est comme Chelsea dans la vie.
Avec les fraises.
Ouais, non, mais comment crazy.
Mais je pense que la popularité du livre, c'était vraiment la caricature. Puis il faut le garder comme ça. C'est une caricature de...
Mais c'est une façon pédagogique d'expliquer les choses en créant des catégories, mais probablement autant de styles d'attachement qu'il y a des personnes. Plus complexe qu'un seul style d'attachement pour une seule personne.
Ouais. Il faut pas que tu mettes une visière non plus dans essayer de catégoriser chacun l'autre. C'est comme, on n'est pas des psychologues, on n'est pas, on n'a pas des PhD.
Clairement pas.
On apprend à naviguer dans nos relations, mais tu sais, je pense que des petits livres comme ça peuvent aider à mieux comprendre, faire le portrait de savoir. Puis moi, c'est comme ça que le livre, il m'a aidé. C'est comme, j'étais comme ça à cette période-là, j'étais comme ça avec telle autre personne. Mais ça n'a jamais été comme la map avec laquelle j'ai continué à naviguer dans certaines relations. Par contre, tantôt j'avais mentionné que Amir Levin, pas Adam, il avait dit qu'il réécrirait, s'il pouvait réécrire le livre aujourd'hui, il mettrait plus de l'empathie à l'égard des lévitants. Notamment des critiques qui avaient été lues, que j'avais lues il y a pas longtemps, c'était que on faisait le portrait des lévitants comme diable incarné, tu sais, c'est comme une personne
incarnée.
Et justice pour Lévitant.
Exactement. Je suis Lévitant. Mais dans le livre, c'est ça. La personne nous disait qu'on victimisait quasiment l'anxieux. Alors que l'anxieux, il peut aussi causer beaucoup de mal.
Ben oui, c'est clair.
Alors que Lévitant, on en parlait vraiment pas sur la même proportion dans le livre. Et pas de la même façon. Donc le portrait était, la personne est froide, elle est égoïste, elle pense à elle, etc. Alors que c'est pas le cas. Bon, j'avais vraiment aimé ça de voir, d'écouter que aujourd'hui, 3 ans plus tard, si j'écrirais le livre, mais ça beaucoup plus l'accent sur, faut avoir de l'empathie envers chacun des styles. T'sais, même la sécurité peut, comme je disais, peut se faire prendre ses propres pièges. Parce qu'il est trop sécure, justement, sa relation, qui s'adapte à tout, il est flexible, il voit pas la menace.
Il se protège moins, en fait. Contrairement aux deux autres qui sont plus dans des stratégies de protection.
Il se protège pas.
C'est vrai qu'il peut se casser la gueule. Bah, je suis pas encore cassé la gueule, mais écoute, j'attends de voir.
On leur souhaite pas.
Puis on souhaite savoir aussi qu'est-ce qu'ils voient.
C'est gobelé.
Ça doit être fort, hein.
Puis, une autre critique que j'avais aimée, c'est que, c'est toujours une dualité, tu sais, anxieux, évitant, tu sais, la diversité, elle est comme, est-ce que l'homme peut être plus versé, la femme, plus versa, les personnes non-binaires, queer, tu sais, c'était vraiment très hétérocentré quand même. Donc, est-ce qu'on devrait pas essayer de ouvrir aussi comme on se fait, les cultures?
C'est quoi les clichés, genrés, dans les signes d'attachement? Ça va être quoi? Parce que je pourrais pas dire
ben la femme est souvent plus
anxieuse
dans l'imaginaire collectif, parce que c'est un petit peu ça, mais c'est des clichés.
Donc de la critique, là, parce que la personne, elle a lu le livre. Elle disait que c'était dans les anecdotes, dans les...
Dans les exemples qu'il donne.
Ouais, exactement. Okay, il y aurait pu avoir plus de diversité là.
Tu vois, si ça avait été pris par Bookstead King, on aurait eu des critiques intéressantes.
Et des personnages de fun.
Ouais, j'ai fini pour moi ma chronique, c'est clair.
Alors, ce qu'on se disait, c'est qu'on allait utiliser l'outil du moment, ChatGPT, pour en gros diagnostiquer, nous indiquer les styles d'attachement de certains personnages de la culture populaire.
Mais est-ce qu'on veut d'abord nous faire nos guesses?
Oui, oui, bien sûr. En gros,
donc, on peut demander à l'intelligence artificielle, c'est quoi le...
On a plusieurs idées, en fait, de personnages qu'on pourrait utiliser. Et donc, si on veut commencer par Friends, à vos avis, les amis, quels sont les styles d'attachement à...
Quel personnage?
Par exemple, commençons par...
Chandler.
Ok, Chandler. Qu'est-ce que tu dis?
Oui, clairement évitant.
Ouais, évitant.
Pourquoi?
Ben, jusqu'à Monica... peut-être anxieux avec... c'était quoi son nom?
Janice. Tu sais,
il était
évitant. Il était évitant,
Janice. Oui, c'est vrai.
Mais il osait même pas comme lui dire qu'il voulait plus être avec elle et tout. Vrai. Genre, il confondait vraiment pas ses sentiments.
Mais il revenait tout le temps.
Non, mais il est parti au Yémen.
Il est parti au Yémen?
Il a prétendu qu'il allait au Yémen.
Il a dû partir parce qu'elle l'a suivi à l'aéroport.
Ah, c'est vrai.
Il s'est barré au Yémen.
Évitant. Grave évitant. Physiquement évitant.
Ouais, non, c'est vrai.
Il avait des commentaires. Jusqu'à maintenant.
Okay, juste à Monica, ouais, c'est vrai.
ChatGPT est d'accord avec vous. La tendance à utiliser l'humour et le sarcasme pour maintenir une distance émotionnelle avec les autres. Il peut avoir du mal à exprimer ses émotions profondes et à s'ouvrir complètement. Ce qui peut parfois conduire à des difficultés dans ses relations intimes. Rachel.
T'avais pas dit Ross?
Oh, Ross, ouais, c'est Ross.
C'est anxieux.
Très anxieux.
Très anxieux.
Un exemple, donnez-moi un illustré. Moi, je me rappelle plus de Friends.
Alors, moi, je me rappelle que quand il était avec Rachel, il lui a envoyé des fleurs et genre un orchestre à son travail.
Ah, je me rappelle pas de ça.
Parce qu'il était jaloux du collègue beau gosse de Rachel. Donc, il voulait comme marquer son territoire.
Quoique, avant ça, genre, avant qu'il soit en mode de grosse déclaration et tout, bah, genre, il a quand même attendu, je sais pas, 20 ans avant de déclarer. Est-ce que c'est pas évident, ça?
C'est anxieux.
Bah, si il a vraiment peur d'être rejeté, je guess c'est plus anxieux qu'évitant, non?
Mais je pense, tu sais, ça fait longtemps que je l'ai vu, mais il me semble qu'il cherchait à avoir la proximité, l'intimité, il était dans la quête d'une relation, tandis que, je pense.
Évitant, tu te laisses pas vraiment de porte ouverte.
Ben, c'est que tu vas flirter, mais la proximité, elle est inconfortable à vivre. Donc, alors que lui, il était très à l'aise en intimité, il voulait aller chercher... en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Moi, je me sens qu'il est anxieux.
Ouais, j'ai l'impression qu'il cherche beaucoup de validation.
Ouais, aussi.
Genre comme avec la fille avec qui il a passé la nuit when they were on the break. Genre, il a été très rapide à aller chercher la validation d'une autre fille, genre as soon as they were on the break.
Donc. Ouais, mais il était... En tout cas, on va recommencer ce débat.
Donc, ChatGPT est d'accord avec vous. Il est souvent préoccupé par ses relations amoureuses et peut-être positif envers ses partenaires. Il peut également ressentir de l'insécurité lorsqu'il est confronté à des situations incertaines ou conflictuelles dans ses relations. Donc, pour Rachel, quel est votre diagnostic?
Mais je pense évitante. Elle s'enfuit quand même de son mariage.
Ah, c'est vrai que ça commence comme ça.
Ouais, ça
mais pas à la suite.
Elle cherche pas tant. Excuse-moi, je te coupe.
Non, je réfléchis. Si elle est anxieuse, parce qu'elle cherche l'attention des fois de ses crushs, des choses comme ça.
Bon point. Moi, je trouvais qu'elle peut-être plus. Elle se cherchait elle-même. Donc, elle était plus comme recentrée vers elle-même avant. Donc, peut-être les deux. Dans différentes saisons, je pense que.
Elle est passée par différentes phases.
Ouais. Mm-hmm.
Je saurais pas la classer. Je dirais pas non plus qu'elle est désorganisée.
Non.
Je dirais pas qu'elle est complètement sécure.
Mais en même temps, c'est un des personnages qui a le plus évolué, je pense.
C'est vrai. Et là, c'est une belle illustration de l'évolution de l'attachement.
À travers les saisons de Friends.
Mais d'après ChatGPT, elle serait anxieuse et hésitante.
Ah, mais c'est pas mal.
Elle a raison. Dans
les organisations.
Hey. On est bonne. Pour Joey.
Ah, lui, il est évitant. Ah non, lui, il est quand même sécure, je pense. Parce que il rentre dans... Tu sais, ses relations intimes sont jamais très profondes. Mais sa relation avec la pizza, vraiment...
Mais ça dépend... Ouais, je dirais évitant avec les femmes. genre dans les en gros dans ses relations amoureuses, parce que il rentre pas vraiment dans des relations qui sont meaningful sur un plan émotionnel.
Mais est-ce qu'il rentre pas, encore une fois, je sais pas vraiment de quoi je parle parce que j'ai aucun souvenir de fans. Mais est-ce qu'il rentre pas dans des relations meaningful parce qu'il a pas envie d'avoir des relations meaningful, parce qu'il a peur d'être parce que je pense qu'il y a un petit peu cette différence là, dans le sens où est-ce que t'es hésitant pour te protéger, ou est-ce que t'es hésitant parce que je t'attends pas?
Mais il a eu quand même des relations à travers les saisons. Je ne saurais pas.
Je pense qu'il est... je trouve plus sécure parce que j'ai pas l'impression qu'il a de manque de confiance avec les partenaires avec qui il a été, et puis aussi parce qu'il a enchaîné les conquêtes, mais parce que c'est ce qu'il
veut. Encore une fois, c'est... est-ce que c'est pour se protéger ou parce que c'est ça qu'il voulait à son moment?
Je pense pas qu'on peut le lire comme ça, dans ce cas-ci. Parce que je pense qu'on l'a, on a jamais vu ce côté deep de lui dans
mais ça a toujours l'air d'être un personnage heureux, par contre. Ouais. Il a l'air bien dans sa peau.
Ouais. En tout cas, très sécure avec la nourriture.
ChatGPT est d'accord avec vous. Ce serait un personnage qui représente un style d'attachement sécurisé. Il est généralement confiant et ouvert dans ses relations amicales et amoureuses.
C'est vrai avec ses amis. C'est un bon ami. Il garde le secret.
What about Sylvie?
Il est sécure.
Moi, je la vois sécure aussi. Ouais.
Parce que, genre, je me souviens d'un épisode où est-ce qu'elle doit break up avec quelqu'un. Et on sait pas ce qu'elle lui dit, elle lui dit deux mots, il lui fait un hug. Tout se passe super bien. Et à côté, il y a Chandler qui doit rompre avec Janice, et qui n'y arrive pas. Et il est genre, il veut s'arracher les cheveux parce qu'il comprend pas comment c'est défini.
Bah, d'après ChatGPT, elle serait détachée.
Ah ouais? Ah,
c'est quoi détachée?
Genre, elle danse?
Ouais.
Non. En fait, non, il y a une différence. En fait, oui, parce que je m'en rappelle, c'est ça que la question que je me posais. En gros, ici, elle rajoute un petit peu une petite nuance entre hésitant et détaché. Détaché, c'est un petit peu genre le next level de hésitant. Donc, ce qu'ils disent, hésitant, ce serait quelqu'un qui est hésitant a tendance à minimiser les liens émotionnels avec les autres. Et la personne détachée a vraiment une indifférence émotionnelle envers les autres. Donc, peuvent sembler froid, insensible et pas investi émotionnellement dans leur relation. Les détachés peuvent ne pas ressentir le besoin d'éviter des liens émotionnels parce qu'elles n'en ressentent simplement pas le désir.
Mais alors pourquoi Joey ne serait pas détaché?
Peut-être que Joey est investi dans sa relation?
Mais tu vois, je suis pas d'accord avec ChatGPT cette fois-ci parce que, tu sais, dans sa relation avec son frère à la fin, tu sais, elle a quand même les jumeaux.
Exact.
Tu sais, c'est très sécure comme...
C'est vrai. Puis aussi,
ça, c'est bizarre comme histoire.
Ouais. Elle est amoureuse d'un gars qui va en Russie.
Oui, ils ont une belle histoire d'amour et elle est hyper investie dedans.
Puis elle le laisse aller sans le suivre.
Est-ce que c'est Paul Rudd?
Non, ça c'était...
Ah, mais c'est vrai.
C'est le dernier.
Moi, je vois pas juste de Paul Rudd.
Elle se marie avec lui.
Ouais.
À la fin.
Ouais, voilà.
Ouais, je la vois pas comme évidente. Je dirais sécure, moi.
Détachée, c'est encore plus loin qu'évident.
Mais moi, je pense que ChatGPT est un peu difficile avec lui, je pense.
Ouais. Je pense que c'est parce que c'est une femme.
C'est clair. Ah, est-ce que ce serait le biais de ChatGPT?
Sûrement.
Il voit le détachement ou genre...
Mais c'est parce
qu'il voit l'indépendance chez l'homme comme étant un signe de sécurisé et chez la femme comme étant un signe de détachement.
Je l'ai dit en blague, mais finalement, je le crois. Parce que... Tu sais, elle est très fidèle comme amie. Elle aussi, elle est toujours là pour se les supporter.
C'est clair.
Mais elle est très space. Autant que
Joey, tu sais. On dirait que les deux, ils ont genre leurs boundaries. Ils savent qui ils sont et tout.
Ouais.
Mais...
Je me rappelle, elle disait non.
Des fois, ils sont très semblables, en fait, les deux personnages, je trouve.
C'est juste leur genre qui est différent. ChatGPT, il s'existe.
Qui, non? Monica.
Anxieuse.
Ouais. Parce qu'elle est très en contrôle.
Son besoin de perfectionniste, côté perfectionniste, là, ça me dit qu'elle a un besoin de validation.
Ouais.
Moi, je la trouve anxieuse avec le ménage, mais avec Chandler, à la fin, elle est tout sécure, parce que lui, il est dans tous les sens, et elle arrive à le canaliser.
Mais je pense aussi, tu sais, avec sa relation avec ses parents, elle est très insécure, parce que c'est Ross, le chouchou. Ouais.
Bah, d'après ChatGPT, elle serait effectivement anxieuse et souvent préoccupée parce qu'on a tendance à son désir d'être aimée et approuvée par les autres. Elle peut être très exigeante envers elle-même et se sentir anxieuse face aux conflits ou aux ruptures dans ses relations amoureuses ou amicales. On la voit craindre l'abandon et agir de manière impulsive pour éviter cela.
Mais je pense que c'est qui la moustache, là?
La moustache? Richard.
Oui. Avec lui, c'était très simple. Moi, j'ai aimé cette relation.
T'as vu que t'es vieux?
C'était son père.
Ça,
c'était un peu bizarre.
On en parlera dans notre épisode sur la différence.
Elle a fait pipi dans sa piscine.
You. Et après, elle est partie à
l'aise. C'est ça.
That's weird. Ouais. Mais on va pas faire d'agisme. C'est pour l'heure, c'est quoi,
moi, je m'autorise un petit peu, d'agisme. Mais ouais, ce que je disais, c'est que, genre, ChatGPT, des fois, il pose des diagnostics que je ne comprends pas. Donc, je lui demandais de serait des signes d'attachement avec The Office. Et là, il m'a dit que Michael Scott avait un attachement détaché. Ce que je trouvais complètement absurde, c'est absolument le...
Ouais, nous, on avait identifié son style comme étant anxieux.
Ah oui, 100%, il cherche vraiment la validation des autres, il cherche vraiment activement à être aimé, comme... Il déteste quand les autres parlent sur son dos, il a vraiment besoin de comme savoir que tout le monde... il dit à un moment, genre... Would I rather be filled or loved? Après, il dit genre... I would like people to feel when I share love.
C'est cute. Ouais. Mais c'est tout à fait lui. Je trouve que ChatGPT n'a pas lui-même compris le détacher, n'est-ce pas?
Mais comme,
il a de la misère avec ce...
Mais après, il me dit, ChatGPT me dit, il peut sembler insensible et égocentrique. Égocentrique, ok, mais montrant peu d'engagement émotionnel envers ses collègues, quand la personne la plus engagée.
Non, ChatGPT, s'il a lu.
Mais je... Et aussi, pardon, aussi dit que genre Andy Bernard est sécurisé, ce qui est quoi en fond.
Non, pas du tout.
Andy Bernard, c'est lui qui, genre, qui frappe un trou dans le mur avant, hein, et qui a envoyé genre un anger management.
Ah, lui qui joue de la
musique. C'est lui qui chante.
Il est quoi, lui?
D'après ChatGPT, il est sécurisé, mais genre, c'est pas vrai. Ça, regardez un épisode de ChatGPT. Mais du coup, il est complètement genre, en love with the place. Il a vraiment un gros complexe d'infériorité, genre, il sait vraiment de se... Il rappelle tout le temps qu'il est allé à Cornell pour justement, comme, mettre un petit peu de distance entre lui et ses collègues. Tu sais, à un moment, il a combattu pour, l'affection de Angela, genre, qui... Ah, mais you know what? Peut-être qu'il était tellement secure, parce qu'à un moment, je sais pas si vous vous rappelez sa relation avec Angela. Mm-hmm. Genre, Angela faisait que le repousser. Et genre, lui, t'es comme... Il voyait absolument pas ses red flags. Mmh. Et comme il était prêt à l'épouser alors que clairement Angela était pas du tout une famille, peut-être que...
Mais toi, je pense...
Peut-être que c'est l'abus de secure.
Mais je pense que c'est ça, c'est la nuance dans toi. ChatGPT, qu'est-ce qu'il a analysé? On ne sait pas. Est-ce que c'est ça, c'est les relations, les styles d'attachement des gens, des personnages avec leurs collègues, avec les relations amoureuses?
Ouais, parce qu'encore une fois, ça dépend de quelle relation avec qui et comment... Qu'est-ce qui te renvoie lui comme image aussi?
Mais c'est ça, ça me rappelle, en parlant encore de Michael Scott, l'épisode où il est comme un ghost. Mm. Il est tellement vexé que genre, il se présente plus au travail. Genre quelqu'un qui est détaché. Après il dit, ah oui, genre je pense, c'est comme, il est comme sur une balançoire, genre, après il dit, j'imagine un astronaute dans le ciel qui regarde la planète qui trouve peut-être super petite, et après il dit, j'imagine que cet astronaute serait very sorry for me. Tu m'as dit cette personne-là,
oh,
genre détachée.
Non.
Je me rappelle plus de cette scène, mais je vois le mime.
Oui.
Ouais,
alors, c'est... Sous sa balançoire. Une autre émission qu'on pourrait diagnostiquer, qui est plus actuelle et que, honnêtement, je me rappelle plus, parce que j'ai encore une fois aucun souvenir de France, c'est Brooklyn Nine-Nine.
Ah, alors. Qu'est-ce que vous en pensez?
Qu'est-ce que vous pensez de Jack Peralta?
Est-ce qu'il est désorganisé?
Moi, je pense qu'il est vite, hein.
Moi, je pense qu'il est pas du tout désorganisé.
Ah, moi, je le vois complètement.
Il est fou, mais pas dans ses relations. Genre, il va faire des trucs fun.
Ah, peut-être, c'est vrai.
Mais genre, il va pas se comporter avec les gens. Genre, il est pas du tout hot and cold.
Moi, je le vois sécurisé.
Ouais, moi aussi, je le vois sécurisé.
Mais juste, il est juste complètement.
Mais dans le sens, comme, genre, il est vraiment constant avec,
Amy.
Oui, avec les gens autour de lui, avec
et ses amis. Boys,
avec, Tu sais, il est très aussi, genre, il est très capable d'exprimer son affection, tu sais, il est très admiratif de son boss, il va le dire.
Il va lui dire qu'il considère comme un père et tout, genre,
il perd quand même.
Oui, tu sais, dans les films, il est quand même assez,
Sécure. Moi, je dirais sécure.
Effectivement. J'ai déjà difficile de m'en montrer un petit peu.
Ok, attends,
Ok, on a le textbook example de la personne détachée.
Gina?
Non, le boss, là.
Non!
Ah, non.
Rosa?
Oui.
Ouais, détachée. Rosa est détachée, grave.
Rosa est très détachée.
Oh, elle a 900 émotions.
Exact!
Je sais,
vous
me rappelez, c'est qui, mais oui.
C'est celle qui a, genre, toujours un visage un petit peu, face. Elle est réservée émotionnellement et a tendance à garder ses sentiments pour elle.
Voilà. Pourquoi? Parce qu'elle demande pas d'aide, non plus.
Oui, et puis, genre, elle met vraiment,
sa vie privée.
Qui dit qu'il est anxieux?
Amy, peut-être.
Ouais. Moi, c'est pas ça que je vois. Genre, il y a quelqu'un qui est vraiment plus
anxieux. Ah oui, attends, le meilleur ami, là, Charles. De Jake.
Genre, c'est, pour le coup, lui,
bah, lui vraiment, il est anxieux.
Lui, il est vraiment très anxieux, il est vraiment, genre, tout le temps, il cherche tout le temps la validation, il va, put himself down aussi, j'ai l'impression. De mes souvenirs.
Ouais.
Il a un besoin intense de plaire aux autres et d'être anxieux face à l'idée de ne pas être aimé ou accepté. Il se soucie beaucoup de l'opinion des autres et peut se montrer attachant dans ses affections, dans ses interactions avec ses collègues. Alors, on a une évitante, dans la personne de Gina.
Évitante, ouais.
Mon personnage préféré. Mon nom est parti comme j'avais plus aucun intérêt à regarder l'émission. J'avais pas le
droit. C'est quand, en gros, elle est partie pour faire son Oprah.
Elle a évité la série.
C'est clair.
T'es évitante avec le tout.
Elle est souvent distante émotionnellement, elle préfère garder ses émotions, ses véritables sentiments cachés derrière son attitude excentrique et sarcastique.
C'est vrai.
Pour, petite parenthèse Friends. Oui. Janice. Oui. Je pense que ce serait un exemple de
Secure.
Ah oui! C'est vrai!
De Chandler.
Elle voit pas que Chandler la repousse, elle voit pas que tout le monde se fout de sa gueule.
Mais elle a l'air de bien le vivre.
Mais c'est ça, elle le vit bien, mais finalement, elle n'arrive pas à voir la vraie qualité de ses relations.
Oui, ouais. Des fois, c'est comme ça que ça marche. Des fois, les personnes qui sont le plus clouless, c'est plus drôle.
Moi, je pense que c'est aussi les personnes sécures, elles n'auront pas de mal à aller voir l'autre.
Oui.
Pour faire écho à l'autre épisode,
ouais.
Ils feront sûrement les premiers pas.
Ah, peut-être. Probablement.
T'as moins peur du rejet.
Ouais, parce qu'ils ont rien à perdre, en fait.
Ou ça affecte tout à gagner. Ça affecte moins négativement que pas trop mal de toi-même. Mmh. Parce que je pense qu'elle est plus solide dans ton,
C'est un anxieux qui va faire le premier pas. Parce que...
Je pense que, il y aura plus de difficultés. Parce que...
Il y a beaucoup qui est en jeu.
Ouais. Et c'est sûr qu'un hésitant ne fera pas le premier pas.
Bah, en fait, je pense que,
ça complique les choses.
Je pense qu'ils iraient parce que ils se diront pas, c'est l'amour de ma vie, c'est l'amour de ma mariage. Donc, ouais.
Ah, ouais.
Donc, avec cette attitude de, il y a pas d'intimité, je vais juste comme, ça va, un café, ça tente.
Il va pas connecter émotionnellement dans le jeu. Mais en même temps, un anxieux pourrait aussi, si jamais c'est quelqu'un qui cherche l'attention, il pourrait comme aller vers l'autre. Ouais, je pense que j'ai envie de, je pourrais tout faire l'un de l'autre.
En tout cas,
c'est des belles illustrations, tout ça.
Si vous voulez d'autres exemples,
tu veux demander.
Mais avant 2021.
Avant 2021, voilà.
C'est trop lui demander.
Ah, attends, je vais lui demander la première saison de la Miss Bunny.
Mais est-ce que vous vous rappelez les candidats?
Of course. Gianna!
Mais il y a Cameron.
Gianna est anxieuse.
For sure.
Saison. Ah, elle est peut-être désorganisée. Non, elle est aussi.
Oui, elle a été vraiment rotten.
Ouais. L'a insulté, moi je trouvais ça le manque de respect, je suis comme.
Ouais, mais lui aussi.
Il était spécial.
Oh, guys, ok. Ah.
Elle est tellement fière.
Alors? Ok, parce que vous vous rappelez de Jessica là qui donnait son verre de vin sur le chat? Oh,
oui!
Et là, on a, effectivement, check. Là, on voit les problèmes.
On a tout un panel.
On a tout un panel. Parce que, alors, ça dit comme quoi Marc, elle se souviendra plus de Marc. C'est le petit jeune qui est avec Jessica.
Il est pas content.
Donc lui serait sécurisé. Donc malgré les doutes de Jessica, il est prêt à s'investir émotionnellement dans la relation. Donc
again, sécurisé qui est un petit peu blind.
Parce qu'il y a des vilaines.
Ouais. Par contre, petite astérix. Astérix.
Astérix.
Égal
Astérix. Angel.
Après le show, il a un peu fait n'importe quoi. Genre, le gars, en vrai, c'est un red flag ambulant.
Apparemment, il disait des trucs pas nets.
C'est ça. Et il a fait un enfant.
Voilà. Donc, c'est ça, du do it. Donc, c'est ça, apparemment, il serait tellement sécurisé qu'il n'a pas vu des red flags. Gianna, effectivement, comme on s'attend tous, anxieux.
Désorganisé. J'ai dit petit.
Ah, ok. Ouais.
Moi, j'aurais dit désorganisé.
Oui, c'est vrai.
Elle nous en a donné vraiment,
c'est vrai.
Dans tous les sens.
Elle peut avoir des hauts et des bas émotionnels et peut être anxieuse face à cette relation là. On peut appeler ça aussi, désorganisé. Mm. Matt, Barnett, ce qu'on appelle de Barnett.
Oui. Non, moi, je dirais sécure.
Sécure.
Barnett est diagnostiqué comme détaché.
Il est pas diagnostiqué.
Il s'est marié, c'est un des seuls couples mariés de la Miss Bunny qui a
été il a marié l'autre avec toutes ses dettes.
Il a payé.
Il était à Mochi, genre. Il a l'air quand même stable et
Il a payé sa dette.
Mais peut-être aussi que, tu vois, il était trop secure, ça l'a blinde, ça aide déjà, puis il était comme, c'est beau, je vais voir ma maison, j'ai payé ses dettes, je vais habiter avec sa coloc.
Oh my god.
Mais, tu sais, en plus, il était entre deux femmes aussi, mais genre, il avait l'air quand même de savoir s'il voulait. Genre, il n'y a pas vraiment aussi, comme après dans les autres saisons, on a vu des... Des oscillations, comme, comme jamais.
Chat GPT doit faire des études en psychologie.
Diagnostic, ça marche pas trop.
Il y avait qui d'autre, cette saison-là? Intéressant.
Lorraine. Lorraine serait sécurisée.
Tu m'en rappelles pas
de moi. No surprise.
Lorraine Speed, c'est la,
Ah oui, oui, oui.
La meuf avec de Cameron. Cameron.
Ouais, exact. Jessica, anxieuse, elle avait l'air stressée. Elle peut être très préoccupée par le jugement des autres, c'est vrai.
Mm-hmm. Ah ouais, parce qu'elle est, elle avait 36 ans.
Ouais. Et l'autre, c'est un petit gamin. Visiblement, il a eu un bébé juste après. Il y avait
genre ça avec des bises.
Même ça avec des bises. Elle peut être préoccupée par le jugement des autres. Et...
Félicitations, Jessica.
Mais elle vient d'avoir un bébé, je pense, Jessica.
Oui, elle a eu un bébé.
Non, mais elle, elle est maintenant dans une relation super sécure. Je suis sûre que de nos jours, elle serait hyper sécurisée.
Ouais.
Après, elle il y a de l'espoir.
Et voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce qui est intéressant. L'important de, un petit disclaimer là, de disclaimer de, l'important de se rappeler que Love is Blind est une émission de télé-réalité et que les participants peuvent être influencés par des spectateurs extérieurs, c'est-à-dire que la caméra, le format de l'émission, voilà. Ah, il est question de trouver une connexion rapide.
Well done.
Et aussi l'alcool.
C'est vrai.
Facteur important. L'alcool coulait à flot. Comme on le voyait pas dans leur verre, mais comme leur verre était toujours plein. Franchement, genre, je pense qu'il les mettait bien, bien, comme ça. Comme dans OD. Mais OD, genre, les témoignages, ça disait comme quoi, genre, parce qu'ils avaient comme des pré-parties avant les parties, mais comme ça, j'ai vraiment pas longtemps, et ils laissaient vraiment boire leur verre, comme, plus sec avant d'aller, Parce que les parties, elles durent tellement pas longtemps.
Bah oui, il faut que tu bois,
hein. Il faut être, genre, déchiré avant.
Pour qu'il se passe des choses.
Mais parce que sinon, c'est pas dramatique.
Sinon, t'es trop inhibé.
Mais je me demande, j'aimerais diagnostiquer les bébés.
Tu veux pas les diagnostiquer?
Non, c'est pas un diagnostic, c'est vrai.
Bon, le mot de la fin.
Pour conclure sur une note un peu positive, en faisant des recherches, là, j'étais un peu déprimée par ce que je voyais sur tous les trucs insécures. Donc...
Mais pourquoi tu m'as pas appelée? Je t'avais rassurée.
j'ai évité. J'ai évité d'en parler. Mais bon, clairement, il n'y a pas quatre manières d'être au monde. Et en même temps, je me suis dit, c'est une sorte d'homéostasie où est-ce que tu refais un petit peu le bilan de tes émotions.
Ça veut dire quoi, homéostasie?
Stasie,
c'est nous.
Mais c'est
homéostasie.
Ça s'écrit. H-O-M-E accent O. Tasie, T-A-Z-I. Non, c'est un rééquilibrage, en fait.
Oh.
Pour retrouver un petit peu sa paix intérieure. Et donc, quand même positif dans certains cas. Un signal d'alarme, c'est comme, tu sais, quand t'es malade, t'es d'accord, t'es mal quelque part, c'est qu'on peut dire, allez, là, c'est bien.
C'est quand même utile.
Ouais, la chose, c'est quand même utile. Et aussi, pas immuable, quand même, pas mal.
C'est
utile.
Ça, c'est une bonne oreille.
En plus, tout est réel. Exactement. C'est utile.